Lucien de Samosate, L'histoire véritable, deuxième partie. Depuis ce moment, la vie que nous menions dans la baleine me devint insupportable. Ce séjour m'était odieux, et je cherchais quelque moyen d'en sortir. D'abord, nous pensâmes qu'il suffirait, pour nous échapper, de pratiquer un trou dans le côté droit, et nous commençâmes à creuser, mais, après avoir poussé inutilement la fouille jusqu'à la profondeur de 5 stades, nous y renonçons, et nous décidons de mettre le feu à la forêt. C'était un moyen sûr de faire mourir la baleine. Dans ce cas, il nous était facile de nous échapper. Nous commençons donc par mettre au feu les parties voisines de la queue. Pendant 7 jours et 7 nuits, la baleine parut insensible à cette chaleur. Mais le 8e et le 9e, nous nous apercevons qu'elle est malade, qu'elle ouvrait la gueule avec moins de facilité, et quand elle l'ouvrait, elle la refermait sur le champ. Le 10e jour et le 11e jour, elle se mourait. Déjà même, elle sentait mauvais. Le 12e jour, nous nous apercevons déjà, même un peu tard, que, si on ne lui met pas promptement un bâillon pour l'empêcher de clore sa gueule tout à fait, nous courons le risque de périr enfermés dans le cadavre. Nous étayons donc ses mâchoires avec d'énormes poutres, puis nous préparons notre navire, sur lequel nous chargeons une ample provision d'eau, avec tous les objets nécessaires. Saint-Arus devait en être le pilote. Le lendemain, la baleine mourut. Nous tirons alors notre vaisseau, nous le faisons passer à travers les dents du monstre, et après l'y avoir suspendu, nous le faisons glisser doucement jusque sur la mer. Quant à nous, montés sur le dos de la baleine, nous offrons un sacrifice à Neptune auprès du trophée et nous demeurons là 3 jours à cause du calme qui régnait. Le 4e, nous mettons la voile. Nous rencontrons et nous heurtons, chemin faisant, les nombreux cadavres de ceux qui avaient péri dans le combat naval, et nous mesurons avec surprise l'énormité de leur taille. Après une navigation de quelques jours, secondée par un temps magnifique, le vent de Borée se met à souffler avec violence, et il survient un si grand froid que toute la mer se gèle jusqu'à la profondeur de 400 orgies. En sorte que nous pouvons descendre et courir sur la glace. Mais comme le vent se soutenait toujours et devenait de plus en plus insupportable, nous prenons le parti, sur le conseil de Saint-Arus, de creuser dans la glace une grande caverne où nous passons 30 jours, allumant du feu et vivant de poissons. Pour les prendre, il suffisait de creuser. Cependant, les provisions venant à manquer, nous regagnons le navire et nous le dégageons des glaces, nous déployons la voile et nous nous mettons à voguer doucement et légèrement en glissant sur la glace. Le 5e jour, la chaleur revient, la glace se fond et la mer redevient une masse d'eau. Nous avions déjà couru environ 300 stades quand nous sommes portés sur une petite île déserte. Nous y renouvelons notre provision d'eau, qui commençait à manquer, nous tuons à coups de flèche 2 taureaux sauvages et nous poursuivons notre traversée. Ces taureaux n'avaient point les cornes plantées sur la tête, mais sous les yeux, comme le voulait Momus. À quelque temps de là, nous entrons dans une mer qui n'était pas d'eau mais de lait. Au milieu s'élevait une île blanche, pleine de vignes. Cette île était un énorme fromage, parfaitement compact. Comme nous pûmes nous en convaincre dans la suite en mangeant, et ayant 25 stades de circonférence, les vignes étaient remplies de raisins. mais au lieu de vin, on n'en expirait que du lait. Vers le centre de cette île, on avait bâti un temple, consacré à la Néréide de Galatée, ainsi que le portait l'inscription. Durant tout le séjour que nous fîmes en cet endroit, la terre même nous servit de nourriture, le lait des grappes de boisson. On nous dit que Tyro, la fille de Salmonée, était reine de ce pays, récompense qu'elle reçut de Neptune quand le dieu la quitta. Après être demeurés 5 jours dans cette île, nous levons l'ancre, le 6e, avec une jolie brise et une mer tranquille. Le 8e jour, quand nous n'étions plus déjà dans les flots de lait, mais au milieu d'une eau saumâtre et azurée, nous apercevons un grand nombre d'hommes qui couraient sur les vagues. Ils nous ressemblaient en tout, et par leur corps et par leur taille. Il n'y avait que de différence les pieds qui étaient en liège, d'où probablement le nom de télopodes. Nous sommes fort étonnés de voir qu'au lieu d'enfoncer, ils se soutiennent sur l'eau et voyagent sans crainte. Quelques-uns nous abordent, nous saluent en grec, et nous disent qu'ils vont à Pélo, leur patrie. Ils nous accompagnent même quelque temps en glissant le long de notre navire, mais ensuite ils changent de route et nous quittent, en nous souhaitant un heureux voyage. Bientôt nous découvrons plusieurs îles, et près de nous, à gauche, cette Phélo, vers laquelle se hâtaient d'arriver nos voyageurs. C'est une ville bâtie sur un grand rond de liège. De loin, et un peu plus sur la droite, nous apercevons 5 autres villes, très grandes et très élevées, d'où sortait un feu continuel. Vers la proue, il y en avait une large, à fleur d'eau, à la distance de moins de 50 stades. Nous nous en approchons, et aussitôt une odeur extraordinaire, suave, parfumée, arrive jusqu'à nous. On eût dit la senteur que l'historien Hérodote prétend exhaler par l'Arabie heureuse. C'était un mélange de roses, de narcisses, d'hyacinthe, de lys, de violettes, de myrrhe, de laurier, de fleurs de vigne, qui venait caresser notre odorat. Ravis de ce doux parfum, nous espérons enfin le bonheur, après tant de fatigue, et nous avançons vers l'île. En approchant, nous voyons de nombreux ports, vastes et sûrs, et des fleuves limpides, descendant tranquillement vers la mer, puis des prés, des forêts, des oiseaux mélodieux, chantant les uns près du rivage, une foule d'autres sur les rameaux. Un air pur et léger environnait toute la contrée. Le souffle agréable des zéphyrs agitait doucement le feuillage et en tirait des sons délicieux et prolongés, semblables à ceux d'une flûte oblique, au milieu d'une solitude. À cette musique se mêlait le bruit de plusieurs voix, mais sans confusion, comme celui qu'on entend dans les festins, lorsqu'aux accords de la cithare et de la flûte se mêlent les louanges et les applaudissements des convives. Enchantés de tous ces objets, nous nous dirigeons vers la terre, nous entrons au port et nous débarquons, laissant sur le navire Saint-Arus et 2 de nos compagnons. Nous marchions à travers une prairie émaillée de fleurs lorsque nous rencontrons des sentinelles et des gardes-côtes. Ils nous enchaînent avec des guirlandes de roses, ils n'ont pas de lien plus fort, et nous conduisent au chef du pays. Dans le chemin, ils nous apprennent que nous sommes sur l'île des Bienheureux, gouvernée par le crétois Radamante. On nous emmène à son tribunal, et l'appel de notre cause est fixé au 4e jour. La première, qui fut jugée avant la nôtre, était celle d'Ajax, le fils de Télamon. Il s'agissait de savoir s'il serait admis ou non parmi les héros. On l'accusait de s'être donné la mort dans un accès de fureur. Après un long débat, Radamante décida qu'on lui ferait boire de l'hellebore, qu'on le mettrait entre les mains du médecin Hippocrate de Cos, et que, quand il aurait recouvré la raison, on l'admettrait au banquet. La seconde cause était une question d'amour. Thésée et Ménélas se disputaient au sujet d'Hélène. Chacun d'eux voulait la posséder. Radamante l'adjugea à Ménélas à cause de tous les travaux et de tous les dangers auxquels l'avait exposé son mariage. D'ailleurs, Thésée ne manquait pas de femmes, l'Amazone et les filles de Minos. La troisième était une affaire de préséance. Entre Alexandre, le fils de Philippe, et le Carthaginois Hannibal, le jugement fait accorda au roi de Macédoine, et l'on lui éleva un trône auprès de Cyrus l'Ancien, roi de Perse. Notre tour vint alors. Le juge nous demande pourquoi, vivant, nous sommes entrés dans cette région sacrée. Nous lui racontons nos aventures, sans rien omettre, et il nous fait tenir à l'écart, délibère pendant longtemps, et prend l'avis des autres juges. Il avait en effet plusieurs assesseurs, entre autres Aristide le Juste d'Athènes. Enfin, il prononce un arrêt auprès duquel nous subirons, après notre mort, la peine de notre curiosité et de notre voyage. Mais que pour le moment, nous aurions le droit de demeurer dans l'île, de prendre part au festin des héros, et puis de partir. Il fixa en même temps, à 7 mois juste, la durée de notre séjour. Aussitôt les guirlandes qui nous enchantaient, tombant d'elles-mêmes, libres, nous sommes conduits à l'intérieur de la ville, au banquet des bienheureux. Cette ville est toute d'or, entourée d'un mur d'émeraude. Elle a 7 portes, faites chacune d'un seul morceau de cinnamone. Le pavé est d'ivoire. Dans la partie close par la muraille, tous les temples des dieux sont bâtis en béryl. Et sur leur autel, fait d'une seule améthyste, on immole des hécatombes entières. Autour de la ville coule un fleuve de myrrhe magnifique. Il a 100 coudées de largeur, et sa profondeur permet d'y nager aisément. Les bains de ce pays sont de vastes édifices de cristal, tout parfumés de cinnamone, au lieu d'eau. Les bassins sont remplis de rosée chaude. Les vêtements des bienheureux, de toile d'araignée, fort ténue, de couleur pourpre. Du reste, ils n'ont pas de corps, ils sont impalpables, sans chair, et n'offrent aux yeux qu'une forme et une apparence. Ils ne se laissent pas de se tenir debout, de se remuer, de penser, de parler. En un mot, ils ressemblent à une âme dégagée de la matière et revêtue d'une effigie corporelle. Il faut donc les toucher pour être sûr que ce n'est point un corps que l'on voit. Ce sont des effets d'ombre qui marchent, et non pas des ombres noires. Personne chez eux ne vieillit, chacun y garde l'âge qu'il avait en arrivant. Jamais il ne fait nuit, quoique le jour n'y soit pas éclatant. Mais un crépuscule semblable à celui qui, le matin, précède le lever du soleil, enveloppe toute la contrée. Ils ne se connaissent qu'une seule saison pour toute l'année. C'est un printemps éternel, avec un seul vent qui souffle le zéphyr. La contrée est émaillée de fleurs de toute espèce, ombragée de bois touffus et délicieux. Les vignes y sont fécondes, 12 fois l'année, et s'y chargent chaque mois de leurs fruits. Les pêchers, les pommiers et les autres arbres d'automne produisent 13 fois, en offrant une double récolte dans le mois consacré à Minerve. Au lieu de froment, les épis portent des pains tout prêts à manger, comme des champignons. Autour de la ville, on y trouve 366 sources d'eau, autant de miel, 500 de myrrhe, mais celles-ci sont plus petites, 7 fleuves de lait et 8 de vin. Le banquet se tient alors dans la ville, dans un endroit qu'il nomme Champs-Élysées. C'est une prairie délicieuse, environnée d'arbres nombreux, épais, dont le feuillage ombrage les convives, couchés sur un tapis de fleurs. Les vents sont les ordonnateurs et les ministres du festin. Sans en être les échansons, ce soin est superflu. De grands arbres de cristal, le plus diaphane, rangés autour du banquet, portent des fruits qui servent de coupe de toute forme et de toute grandeur. Chaque convive, en arrivant au repas, cueille une ou deux de ces coupes. La place devant soi et le vase se remplit aussitôt de vin. Telle est leur manière de boire. En guise de couronne, les rossignols et les autres oiseaux chanteurs font neiger de leur bec sur la tête des convives les fleurs cueillies dans les prairies et qu'ils répandent en gazouillant et en voltigeant. Quant au parfum des nuées épaisses, où se concentre la myrrhe des fonts et du fleuve, demeure suspendu au-dessus du banquet et doucement pressé par les vents, se résolve en une pluie fine comme la rosée. Pendant le repas, ils charment leur loisir avec la musique et des chants, empruntés surtout au poème d'Homère. Ce poète lui-même est assis à la table et partage le banquet, placé au-dessus d'Ulysse. Les chœurs sont composés de jeunes garçons et de jeunes filles. Ils sont conduits et dirigés par Ennomus de Locre, Arion de Lesbos, Anacréon de Stésichore. Je l'ai vu là, en effet, réconcilié avec Hélène. Quand ses premiers chants ont cessé, vient un second chœur de cygnes, d'hirondelles, de rossignols, et pendant qu'ils chantent, la forêt tout entière, agitée par les vents, les accompagne de la flûte. Mais ce qui fait surtout le charme de ce banquet, c'est qu'il a deux sources, l'une du rire et l'autre du plaisir. Chaque convive, au commencement du festin, y va boire et passe ainsi le reste du repas dans le plaisir et dans le rire. Je veux vous dire maintenant tous les grands hommes que j'y ai vus. D'abord, tous les demi-dieux et les héros qui ont porté les armes devant Troie, à l'exception d'Ajax de Locre, on prétend que c'est le seul qui soit châtié dans le séjour des impies. Puis, parmi les barbares, les deux Cyrus, le Scythe Antichar et le Thrace Xalmonis, l'Italien Puma, le Lacédémonien Lycurge, les Athéniens Phocion, Tellus et les sept sages, hormis Périandre. Je vis Socrate de Sophronisque, babillant avec Nestor et Palamède. Il avait autour de lui Hyacinthe de Lacédémone, Narcisse de Thespie, Hylas et plusieurs autres jolis garçons. Il me sembla qu'il était amoureux d'Hyacinthe, tout du moins avait-il beaucoup d'apparence contre lui. Aussi dit-on que Radamante n'en est pas content et qu'il a menacé de le chasser plusieurs fois de l'île s'il ne cessait pas son bavardage et ne quittait pas son ironie pendant le festin. Platon seul n'est point présent. Il habite, dit-on, sa ville imaginaire, qui était de la République et des lois qu'il avait écrites. À l'égard d'Aristippe et d'Épicure, on leur accorde les premiers honneurs, en raison de leur douceur, de leur grâce, de leur gaieté de bons convives. Là se rencontre encore Ésope, le Phrygien. Il ne sert de bouffon qu'aux autres. Diogène de Sinope a tellement changé d'humeur qu'il a épousé la courtisane Laïus et que souvent, échauffé par l'ivresse, Il se lève pour danser et fait toutes les folies qu'inspire le vin. On ne voit aucun stoïcien. On prétend qu'ils sont en train de gravir le sommet escarpé de la vertu. Nous avons bien entendu dire que Chrysope n'obtiendrait la permission d'entrer dans l'île que lorsqu'il aurait pris une quatrième dose dès le bord. On dit que les académiciens ont l'intention de venir, ils s'abstiennent encore et considèrent qu'ils n'ont pas la compréhension que cette île existe réellement. D'ailleurs, ils redoutent, je crois, le jugement de Radamante, eux qui rejettent toute espèce de jugement. On assure que plusieurs d'entre eux ont pris leur élan pour suivre ceux qui venaient ici, mais que leur lenteur les empêche d'arriver, ou que, faute de compréhension, ils sont restés à mi-route et revenus sur leurs pas. Tels étaient les plus illustres des assistants. Les plus grands honneurs sont accordés à Achille, puis à Thésée. Voici maintenant leur façon de penser sur le commerce et les plaisirs de l'amour. Ils se caressent devant témoins, aux yeux de tous, hommes ou femmes, et n'y voient aucun mal. Socrate seul attestait par serment que c'était sans arrière-pensée impure qu'il cherchait les jeunes gens. Mais tous l'accusaient de se parjurer. Souvent Hyacinthe et Narcisse convenaient du fait, Socrate le niait toujours. Toutes les femmes ont en commun, et nulle n'y jalouse de son voisin. Ils sont en cela des platoniciens accomplis, les petits garçons accordent tant qu'on veut et ne se refusent jamais. Deux ou trois jours s'étaient à peine écoulés que, rencontrant le poète Homère, et nous trouvant tous les deux de loisirs, je lui demandai, entre autres choses, d'où il était, disant que c'était encore chez nous l'objet de discussion. Il me répondit qu'il savait bien que les uns le croyaient de Chios, les autres de Smyrne, un grand nombre de Colophon, mais qu'il était babylonien et que, chez ses concitoyens, on ne le nommait pas Homère, mais Tigrane. Qu'ayant été envoyé en otage chez les Grecs, il avait changé de nom. Je lui fis quelques questions relatives aux vers retranchés de ses poèmes, s'il les avait réellement écrits. Il me répondit que tout c'était de lui. Je ne pus alors m'empêcher de blâmer les mauvaises plaisanteries des grammairiens Zénodote et Aristarque. Après qu'il eut satisfait ma curiosité sur ce point, je lui demandai pourquoi il avait commencé son poème par mille. Il me répondit que cela lui était venu à l'esprit sans qu'il y songeât. Je désirais aussi vivement savoir s'il avait composé l'Odyssée avant l'Iliade, comme beaucoup le prétendent. Il me dit que non. Quant à savoir s'il était aveugle, ainsi qu'on l'assure, je n'eus pas besoin de m'en enquérir. Il avait les yeux parfaitement ouverts, et je pus m'en convaincre par moi-même. Souvent, en effet, je venais converser avec lui quand je le voyais inoccupé. Je l'abordais, je lui faisais une question, et il s'empressait d'y répondre, surtout depuis le procès qu'il avait gagné sur Tersite. Celui-ci avait intenté une accusation pour injure parce qu'il s'était moqué de lui dans son poème. Mais Homère fut absous, défendu par Ulysse. Peu après cette époque, arriva Pythagore de Samos, qui, après avoir subi cette métamorphose, et vécu dans autant de corps différents, avait achevé les périodes assignées à l'âme. Son côté droit était tout d'or. On le jugea digne d'être admis dans ce séjour fortuné, mais il eut quelques incertitudes sur le nom qu'il fallait lui donner, Pythagore ou Euphorbe. Andébocle vint aussi. Le corps tout rôti et couvert de brûlures, on ne voulut pas le recevoir, malgré ses supplications. Bientôt arriva le temps où l'on célèbre les jeux des euthanasies. Achille les présidait. Pour la 50e fois, et Thésée pour la 7e. Comme il serait trop long de les raconter en détail, je dirai en somme que Carus, descendant d'Hercule, remporta le prix de la lutte sur Ulysse, qui lui disputait la couronne. Le prix du pugilat fut partagé entre Arius l'Égyptien, dont le tombeau est à Corinthe, et Épéus, qui combattirent avec un égal succès. Il n'y a point de prix pour le Pancras quant à la course. Je ne m'en rappelle plus le vainqueur. Parmi les poètes, Homère l'emportait réellement de beaucoup sur les autres. On couronna cependant Hésiode. Les prix de tous les combats sont des couronnes de plumes de paon. Les jeux étaient à peine finis lorsqu'on annonça que les scélérats, châtiés dans le séjour des impies, avaient brisé leurs chaînes, renversé leurs gardes et menacé d'envahir l'île des bienheureux. À leur tête marchait, dit-on, Phalaris d'Agrigente, l'Égyptien Busiris, Diomède de Thrace, Siron et Mythocampe. À cette nouvelle, Radamante fit ranger les héros sur le rivage. Ils sont commandés par Achille, Thésée et le fils de Télamon, Ajax, guéri de sa folie. On en vient aux mains, la lutte s'engage, et les héros sont vainqueurs, grâce surtout à la belle conduite d'Achille. Socrate se comporta brillamment à l'aile gauche, et fit des exploits supérieurs à ceux de son vivant devant Délium. Loin de prendre la fuite, à l'approche de l'ennemi, il ne changea pas même de visage. Aussi lui donna-t-on ensuite, pour prix spécial de sa valeur, un grand et magnifique jardin. Il y réunit ses amis pour y converser avec eux et donna à l'endroit le nom de Nécracadémie. Cependant, les vaincus sont faits prisonniers et renvoyés chargés aux enfers afin de subir une punition plus terrible encore. Homère célébra ce combat dans un poème qu'il me remit à mon départ pour l'apporter à mes compatriotes, mais je l'ai perdu plus tard avec bien d'autres choses. Il commençait par ce vers « Muse, dis le combat des héros chez les morts ». On fit cuire des fèves, suivant l'usage du pays quand on a remporté une victoire, et l'on célébra un repas triomphal avec une grande fête. Pythagore seul n'y prit aucune part et se tint à l'écart sans manger à cause de son aversion pour les fèves. Déjà 6 mois s'étaient écoulés et nous étions heureux au milieu du 7e lorsque survint un événement imprévu. Fils de Saint Arus, garçon bien fait et de fort jolie figure, était devenu amoureux d'Hélène, qui de son côté laissait entrevoir la passion la plus vive pour ce jeune homme. Souvent, ils se faisaient des signes pendant le repas, buvaient à la santé l'un de l'autre, et se levaient de la table pour aller s'égarer tête à tête dans la forêt. Vaincu par la violence de son amour et par la difficulté de le satisfaire, Cintre forma le projet d'enlever Hélène et de s'enfuir avec elle. Elle y consentit, et ils résolurent de se réfugier dans quelqu'une des îles voisines, soit à Phélo, soit à Tyressa. Ils avaient mis depuis longtemps dans le secret 3 de mes compagnons les plus déterminés. Mais Cintre n'en avait rien dit à son père. Il se doutait bien que celui-ci mettrait obstacle à ses desseins. Comme il l'avait conçu, ils exécutèrent leur projet. La nuit venue, au moment où j'étais absent et endormi dans la salle du festin, ils arrivèrent à l'insu de tous, emmenèrent Hélène et se hâtèrent de gagner le large. Vers minuit, Ménélas, venant à se réveiller, s'aperçoit que sa femme n'est plus dans son lit, pousse de grands cris, va trouver son frère et se rend avec lui au palais de Radamante. À la pointe du jour, les espions viennent rapporter qu'ils ont aperçu le vaisseau déjà fort loin. Aussitôt Radamante fait monter 50 héros sur un navire taillé d'un seul morceau d'asphodèle et leur ordonne de poursuivre les fugitifs. Ils partent et font si bien qu'ils les atteignent vers midi, au moment où ils entraient dans l'océan de lait, auprès de Tirésa, tant ils étaient près d'échapper. Les héros attachent leur navire avec des chaînes de roses et les ramènent au port. Hélène pleurait, rougissait, se couvrait le visage. Radamante interroge Cintre et ses complices pour savoir qui n'avait pas trempé dans le complot. Ils répondent qu'ils sont seuls coupables, alors on les fait lier par les parties honteuses et fouetter de mauve, puis on les relègue dans les séjours des impies. En même temps, on décrète que nous ayons à quitter l'île au plus tôt, et l'on nous accorde de rester jusqu'au lendemain. J'étais désolée, je versais des larmes en voyant quel bien j'abandonnais pour recommencer une vie errante. Les bienheureux me consolèrent en me disant que je reviendrais les voir dans peu d'années, et ils m'indiquèrent mon futur trône, mon lit, ma table, auprès des plus éminents. Pour moi, j'allais retrouver Radamante, et je le suppliai instamment de me révéler l'avenir et de m'enseigner la route à suivre. Il me dit que je reverrais ma patrie, mais après de longues erreurs et de grands dangers. Jamais il ne voulut déterminer le temps de mon retour, et, me montrant plusieurs îles, on en voyait 5 et une 6e, plus éloignées que les autres. « Ces îles que tu vois près d'ici, ajouta-t-il, et d'où sort une flamme continuelle, ce sont les îles des impies, la 6e et la ville des songes. Ensuite, on trouve l'île de Calypso, mais tu ne peux pas encore la découvrir. Quand tu les auras passées, tu trouveras un vaste continent, opposé au vôtre. Là, il t'arrivera une foule d'aventures, tu traverseras divers pays, tu voyageras avec des hommes sauvages, et tu débarqueras enfin dans l'autre continent. Ainsi parla Radamante. En achevant ces mots, il arrache de terre une racine de mauve, me la présente et m'ordonne d'invoquer cette plante dans les dangers les plus pressants. Surtout, il me recommande, si jamais j'arrivais à cette terre, de ne jamais remuer le feu avec l'épée, de m'abstenir de lupin, de ne voir jamais commerce avec un garçon de plus de 18 ans, qu'en me souvenant de ses préceptes, je pouvais conserver l'espoir de revenir à l'île des bienheureux. Dès ce moment, je fis tous les préparatifs du départ. À l'heure du repas, j'allai me mettre encore à table avec les habitants. Le lendemain, je m'approchai du poète Homère et je lui priai de me faire une inscription en distique. Il la fit. J'élevai aussitôt une colonne de béryl sur le port et j'y gravai ces deux vers. Lucien favorisé par les dieux immortels, vit ses lieux et retourne au foyer paternel. Ce fut notre dernière journée. Le lendemain, nous mettons à la voile, les héros font la conduite, et Ulysse, s'approchant de moi, me remet, à l'insu de Pénélope, une lettre adressée à Calypso, dans l'île d'Ogygie. Radamante nous donne, pour nous conduire, le pilote Nauplus, afin que, si nous étions portés sur les îles voisines, personne ne nous arrête sous prétexte de navigation suspecte. À peine sortions-nous de l'atmosphère embaumée que nous sommes saisis d'une odeur insupportable d'asphalte, de soufre et de pois brûlés, ensemble en même temps. Il nous arrive comme un fumet atroce, dégoûtant, d'hommes que l'on fait rôtir, une vapeur obscure, ténébreuse, fond sur nous sous forme d'une rosée de goudron, puis nous entendons un grand bruit de fouet et un immense concert de voix gémissantes. Nous n'abordons point toutes ces îles, mais seulement l'une d'elles, dont voici la description. Environnée tout entière de bords de pics et dénudée, hérissée de roches et de pointes, elle n'a ni arbres ni eau. Cependant, nous glissons avec effort le long des précipices. Nous avançons par un sentier plein de ronces, hérissé d'épines, jusqu'à une contrée affreuse, et là nous arrivons à la prison, au lieu même des supplices. Le premier aspect de cet endroit nous frappe étonnamment. Partout s'élève du sol comme une moisson d'été et de dard. Trois fleuves l'environnent, l'un de fange, l'autre de sang, le dernier placé au centre, et de feu. Il se déroule immense, infranchissable, il coule comme de l'eau, et ses flots s'agitent comme ceux de la mer. Il contient un grand nombre de poissons, les uns ressemblent à des tisons enflammés, les autres plus petits à des charbons ardents. On les appelle les lichnisques. Il n'y a qu'une entrée fort étroite pour pénétrer à l'intérieur. Elle est gardée par Timon d'Athènes. On nous laissa passer cependant, sous la conduite de Mauplius, et nous vîmes châtier, tous ensemble, nombre de rois et de particuliers, dont quelques-uns même nous étaient connus. Ainsi nous aperçûmes cintres, suffoqués par la fumée et suspendus par les parties. Nos guides nous apprenaient les actions de tous les criminels et la cause pour laquelle ils étaient punis. Les plus cruels châtiments sont réservés à ceux qui ont menti pendant leur vie et qui ont écrit des récits d'imposteurs. Parmi eux étaient Ctésias de Gnide, Hérodote et plusieurs autres. En les voyant, j'ai eu bon espoir pour l'avenir, moi qui n'ai à me reprocher aucun mensonge. Revenu vite à notre vaisseau, car je ne pus supporter davantage un tel spectacle, je fis mes adieux à Nauplius, et je repris la mer. Bientôt, nous voyons à peu de distance l'île des songes, entourée de ténèbres et difficile à distinguer. Semblable aux songes même, elle s'éloignait à notre approche, fuyait et paraissait s'évanouir. Enfin, nous la tenons et nous entrons dans le port, nommé port du sommeil, tout près des portes ivoires, à l'endroit où s'élève le temple d'Alectryon. Nous y débarquons le soir, nous pénétrons dans la ville, nous y voyons une foule de songes de toute espèce. Parlons d'abord de cette ville que personne n'a décrite avant moi. Homère seul en a fait mention, mais ce qu'il a dit n'est pas exact. Elle est entièrement entourée d'une forêt composée de grands pavots et de mandragores, et remplie d'une infinité de chauves-souris, seul être ailé qui se trouve dans l'île. Tout près coule un fleuve, nommé par les habitants Nyctiporus, formé de deux sources voisines, des portes. L'une s'appelle Négrétos, et l'autre Panichi. L'enceinte de la ville, haute et de couleur changeante, ressemble à l'écharpe d'Iris. Elle n'a pas de porte, comme dit Homère, mais quatre, dont deux gardent la plaine de la mollesse. L'une est en fer, l'autre d'argile. C'est par elle que sortent, dit-on, les songes effrayants, ensanglantés, cruels. Les deux portes sont près du port et tournent du côté de la mer. L'une est de corne, l'autre d'ivoire. C'est par celle-ci que nous étions entrés. En arrivant dans la ville, on trouve à droite le temple de la nuit. C'est leur principale divinité, avec Électron, dont le temple est voisin du port. À gauche est le palais du sommeil. Il est le roi de la contrée et gouverne par l'intermédiaire de deux satrapes, Taraxion, fils de Mathéogène, et Plutoclès, fils de Phantasion. Au milieu de la place publique, il y a une fontaine qu'on appelle Caréotis, et à côté deux temples, celui de la tromperie et celui de la vérité. Ils ont chacun un sanctuaire et un oracle, dont le prêtre est Antiphon, qui interprète les songes et qui a été investi de ce privilège par le sommeil. Les songes, ils n'ont pas la même nature ni la même forme. Les uns sont beaux, longs, agréables, les autres sont courts et laids. Ceux-ci paraissent d'or, ceux-là, chétifs et misérables. Quelques-uns portent des ailes, d'autres ont une physionomie étrange. On en voit qui sont parés, comme pour une pompe triomphale. Ils sont déguisés en rois, en dieux et en autres costumes de ce genre. Nous en reconnûmes beaucoup que nous avions déjà vus. Ceux-là nous abordèrent et nous saluèrent comme des gens de connaissance. Ils nous prirent la main, nous endormirent et nous traitèrent avec magnificence et courtoisie. Puis, après nous avoir fait la plus belle réception, ils nous promirent de nous faire rois et satrapes. Quelques-uns nous transportèrent dans notre patrie, nous firent voir nos parents, nos amis, et nous ramenèrent le jour même. Il y avait 30 jours et autant de nuits que nous demeurions dans cette île, nous livrant aux douceurs du sommeil et des festins, lorsque soudain, un violent coup de tonnerre nous réveille, nous nous levons avec précipitation, nous prenons des vivres, et nous voilà partis. En moins de 3 jours, nous arrivons à l'île d'Ogygie et nous débarquons. La première chose que je fis fut d'ouvrir la lettre d'Ulysse, et j'y lus ces mots. « Ulysse, à Calypso, salut. Sachez qu'aussitôt vous avoir quitté, sur le radeau que je m'étais construit, j'ai fait naufrage, et que, sauvé à grande peine par le côté, je suis arrivé chez les Phéniciens, qui m'ont reconduit dans ma patrie, où j'ai trouvé ma femme entourée d'une foule de prétendants, qui mangeaient mon bien. Je les ai tués tous, et j'ai fini par périr moi-même, de la main de Télégone, ce fils que j'ai eu de Circé. Je suis à présent dans l'île des Bienheureux, me repentant, fort d'avoir quitté la vie que je menais auprès de vous, et l'immortalité que vous m'aviez offerte. Tel était le contenu de cette lettre, avec quelques recommandations pour nous. En m'avançant un peu à distance de là, je trouvai cette grotte dont parlent Homère et Calypso elle-même, occupée à filer la laine. Elle prend la lettre, se met à la lire et fond en larmes près de moi. Elle nous offre l'hospitalité et nous traite avec magnificence. En même temps, elle nous accable de questions sur Ulysse et sur Pénélope, si cette femme était aussi belle et aussi sage qu'Ulysse l'avait vantée auprès d'elle. À toutes ces demandes, nous répondons au mieux qu'il nous est possible pour lui être agréable. Puis le soir venu, nous allons dormir près du rivage. Le lendemain, nous repartons. Le vent soufflait avec violence et nous sommes assaillis par une tempête qui dure 2 jours. Le 3e, nous arrivons chez les Coloquinthropes. Ce sont des hommes sauvages qui, des îles voisines, exercent la piraterie sur des navires en passage. Ils ont de grands navires, faits de 6 coudées de longueur, quand elles sont sèches. Ils les creusent et, après avoir vidé l'intérieur, les remettent à flot. Leurs mâts sont des roseaux et leurs voiles des feuilles de coloquinthe. Ils coururent vers nous, et nous attaquant avec 2 navires, ils blessèrent plusieurs de nos compagnons en nous lançant, au lieu de pierres, des pépins de coloquinte. Après cette lutte indécise, qui dura jusqu'au milieu du jour, nous vîmes arriver, derrière les coloquintopirates, la flotte des Carionautes. Ces 2 peuples sont ennemis, comme la suite nous le prouva, car aussitôt que les premiers s'aperçurent de l'arrivée des autres, ils nous laissèrent là pour aller les combattre. Nous déployons aussitôt notre voile et nous prenons la fuite, laissant les 2 flottes aux prises. Il était évident que les Carionautes seraient vainqueurs, ils étaient plus nombreux, puisqu'ils avaient 5 vaisseaux complètement équipés et d'une construction plus solide pour la lutte. Ces vaisseaux étaient faits de noix coupées par la moitié, et chaque moitié avait 15 orgies de longueur. Quand nous fûmes hors de leur vue, nous songeâmes à panser nos blessés, et de ce moment nous ne quittâmes plus nos armes, de peur de quelque surprise. Nous avions raison. À peine le soleil venait-il de se coucher, que d'une île déserte nous voyions s'élancer sur nous une vingtaine d'hommes montés sur de grands dauphins. C'étaient encore des pirates. Ces dauphins paraissaient des montures solides, ils se cabraient et hennissaient comme des chevaux. Ils furent près de nous, ils se divisèrent en deux groupes, et nous lancèrent, les uns des sépias sèches, les autres des yeux de crabe. Mais ils ne tinrent pas contre nos jets de flèches et de javelots, ils furent blessés dans la plupart, et gagnèrent promptement leur île. Vers le milieu de la nuit, par un temps calme, nous allons nous heurter, sans nous apercevoir, contre un énorme nid d'alcyon, qui avait au moins 50 stades de circonférence. Au dehors flottait la femelle, couvant ses œufs, et presque aussi grosse que le nid, en s'envolant, peu s'en fallut qu'elle ne submergea notre navire. Par le vent de ses ailes, elle s'enfuit en poussant un cri plaintif. Le jour venu, nous descendons dans le nid pour le considérer. On eût dit un immense radeau, composé de gros arbres. Il y avait à l'intérieur 500 œufs, chacun de la grosseur d'un tonneau de chios. On apercevait déjà sous la coque les petits qui commençaient à croasser. Nous coupons un de ces œufs avec une hache et nous en faisons sortir un petit, sans plumes, mais déjà de la grosseur de 20 vautours. En avançant en mer, à la distance de 200 stades du nid d'Alcyon, des prodiges étonnants et merveilleux viennent frapper nos regards. La figure d'oie, placée à notre poupe, se met tout à coup à crier en battant des ailes, et les cheveux repoussent à notre pilote Saint-Arus, qui était tout à fait chauve. Mais voici le plus surprenant de tout. Le mât de notre vaisseau se couvrit de bourgeons et produisit des branches dont l'extrémité se chargea de fruits. C'étaient encore des figues et de gros raisins qui n'étaient point encore mûrs. À cette vue, nous sommes saisis d'étonnement. On peut le croire, et nous supplions les dieux de détourner de nous ce que ces présages pouvaient avoir de funeste. Nous n'étions pas à 500 stades quand nous voyons une forêt vaste et épaisse de pins et de cyprès. Nous croyons d'abord que c'est un continent, mais l'Almier était sans fond, et les arbres, sans racines, étaient plantés dans l'eau, où ils se tenaient immobiles et droits, ayant l'air de flotter. Nous nous approchons, et voyant la chose de près, nous sommes incertains sur le parti que nous devons prendre. Il était impossible, en effet, de naviguer à travers ces arbres, qui formaient comme un tissu serré. Et, d'autre part, il n'était pas plus facile de revenir sur nos pas. Je monte sur un arbre, des plus élevés, pour examiner ce qui pouvait y avoir, de l'autre côté de la forêt. Je vois qu'elle n'étendait guère au-delà de 50 stades, et qu'ensuite la mer reparaissait à perte de vue. Nous prenons alors le parti de hisser notre vaisseau jusqu'au sommet des arbres, qui étaient très touffus, et de gagner ainsi l'autre mer, si nous ne trouvions point d'obstacle. Nous nous mettons à l'œuvre, nous attachons un grand câble à notre vaisseau, puis, montés sur les arbres, nous le tirons à nous. Après bien des efforts, nous le posons sur les branches et la voile déployée, nous nous mettons à naviguer comme en pleine mer, poussés par un bon vent. C'est alors que je me rappelais les vers du poète Antimaque qui dit quelque part, tandis qu'il naviguait à travers les forêts. Nous parvenons enfin à traverser ce bois et nous arrivons à l'eau dans laquelle nous faisons descendre notre navire, par un semblable moyen. La mer où nous voguions était pure et transparente, mais notre course est interrompue soudain par une ouverture immense qu'avait formée la séparation de l'eau. On eût dit un de ces gouffres qu'on voit parfois s'entr'ouvrir à la suite d'un tremblement de terre. Nous carguons la voile et notre vaisseau s'arrête avec quelque peine au moment même où nous allions être engloutis. Nous allongeons la tête pour regarder dans l'abîme. C'était une profondeur de plus de 100 000 stades, terrible, effrayante. L'eau se tenait droite, comme coupée en deux morceaux. En regardant autour de nous, nous apercevons sur la droite, à peu de distance, un pont formé par l'eau et qui, joignant les deux bords, faisait communiquer chacune des deux mers. Nous virons de ce côté et, forçant de rames, nous y parvenons, avec bien de la peine, à traverser le pont contre toute attente. À partir de là, nous entrons dans une mer fort calme et nous arrivons à une île peu considérable, mais d'un abord facile. Elle était habitée par des hommes sauvages nommés bucéphales, qui avaient le front armé de cornes et tel qu'on représente le Minotaure. Nous y descendons pour prendre de l'eau et rafraîchir, s'il est possible, nos vivres, qui commençaient à nous manquer. Nous trouvons de l'eau tout près du rivage, mais nous ne voyons pas autre chose. Nous entendons seulement un grand mugissement à peu de distance. Persuadés que c'était un troupeau de bœufs, nous faisons quelques pas en avant et nous rencontrons les hommes dont j'ai parlé. Dès qu'ils nous aperçoivent, ils se mettent à notre poursuite et prennent trois de nos compagnons. Le reste de notre troupe s'enfuit vers la mer. Là, nous prenons nos armes, résolus de venger nos camarades, nous tombons sur les bucéphales qui déjà se partageaient les chairs de leurs prisonniers. Nous les effrayons et nous mettons tant à leur poursuite, nous en tuons 50, nous en prenons 2 vivants et nous retournons au rivage avec nos captifs. Cependant, nous n'avions pas trouvé de vivres. Plusieurs d'entre nous voulaient qu'on les égorgeât. Je ne fus point de cet avis. Je les fis entrer et garder à vue, jusqu'à ce qu'il nous arrivât des envoyés des bucéphales pour traiter de leur rançon. Nous voyons en effet que ceux-ci nous faisaient des signes et nous les entendions produire une espèce de mugissement plaintif qui ressemblait à une prière. La rançon fut d'un grand nombre de fromages, des poissons secs, des oignons et 4 cerfs, faits de telle sorte qu'ils n'ont que 3 pieds, 2 de derrière, ceux-ci de devant réunis, en un seul. À ce prix, nous rendons les captifs et, après être demeurés encore un jour dans l'île, nous reprenons notre voyage. Déjà, on voyait paraître des poissons, des oiseaux qui voltigeaient et tous les signes qui indiquent le voisinage de la terre, quand nous apercevons bientôt des hommes qui se livraient à un nouveau genre de navigation. Ils étaient à la fois navires et matelots. Je vais dire comment. Couchés sur le dos, ils tiennent droit leur phallus, qui est fort grand, et attachent une voile. Puis, la boudine en main, ils prennent le vent et gagnent le large. D'autres, assis sur des morceaux de liège, auxquels sont attelés 2 dauphins, conduisant et dirigeant au moyen de la bride ces animaux, qui les entraînent avec eux. Ces navigateurs ne nous firent aucun mal et ne s'enfuirent point à notre approche. Ils nous abordèrent sans crainte, amicalement, et paraissaient très surpris de notre manière de naviguer, dont ils examinaient avec soin tous les détails. Le soir, nous arrivons sur une île peu considérable, toute peuplée de femmes, du moins paraissant telles et parlant la langue grecque. Elles s'approchent de nous, nous tendent la main et nous embrassent. Elles sont parées comme des courtisanes, toutes jeunes, jolies, vêtues de tuniques qui descendaient jusqu'aux talons. L'île s'appelle Calabuse et la ville Idarmadie. Chacune de ces femmes, ayant pris soin de nous, nous conduisit chez elle et nous donna l'hospitalité. Pour ma part, j'hésitais. Je ne pressentais rien de bon, et un regard attentif me fit voir des ossements et des crânes d'un grand nombre d'hommes. J'allais crier, appeler à l'aide mes compagnons, et courir aux armes, mais je préférais n'en rien faire. Seulement, je saisis ma racine de mauve, et je la supplie de me dérober au danger dont je suis menacée. Un instant après, tandis que mon hôtesse s'occupait à me servir, je vois que ses jambes ne sont plus celles d'une femme, mais qu'elle a le pied d'un âne. Je tire mon épée, je saisis mon hôtesse, je la lie et lui fais tout avouer. Elle résiste, mais finit par me dire qu'elles sont femmes marines, nommées Onoskel, et qu'elles dévorent les étrangers qui abordent chez elles. « Nous les enivrons, ajoute-t-elle, nous les faisons coucher avec nous, et nous les égorgeons pendant leur sommeil. À ces mots, je laisse là cette femme tout enchaînée. Je monte sur le toit, et je crie de toutes mes forces pour appeler mes compagnons. Quand ils sont tous arrivés, je leur dis ce qu'il en est, je leur montre les ossements, et je les reconduis auprès de ma prisonnière. Mais elle se change en eau et disparaît. De mon côté, je plonge mon épée dans cette eau, à tout hasard, et il en sort du sang. Nous nous hâtons alors de regagner le navire, et nous partons. Au point du jour, nous apercevons un continent qui nous paraît être la terre opposée à la nôtre. Nous l'adorons, nous lui adressons des prières, et nous délibérons sur le parti que nous devons prendre. Les uns sont d'avis d'y descendre quelques instants, puis de revenir sur nos pas, les autres de laisser là notre navire et de pénétrer dans l'intérieur du pays pour en connaître les habitants. Tandis que nous délibérons, une violente tempête s'élève, pousse notre vaisseau contre le rivage et le brise. À peine avons-nous le temps de nous sauver à la nage, en emportant nos armes, tout ce que chacun de nous peut saisir. Telles sont jusqu'à notre arrivée mes diverses aventures sur mer durant notre navigation à travers les îles. Puis, après notre sortie, chez les héros et parmi les songes, et enfin chez les Bucéphales et les Onoskels. Quant à ce qui s'est passé sur cette terre, je le raconterai dans les livres suivants.